9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On a tous été frappés par les fuites massives de gaz dans la Baltique provoquées par les sabotages des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2. Et nous attendons avec beaucoup d'appréhension les pénuries d'énergie pour cet hiver et l'augmentation de nos factures d'électricité. Comme si l'on vivait en accéléré la transition énergétique dont on nous parle depuis si longtemps. Alors on va voir ça tout de suite avec Christian Gollier. Je recevrai ensuite Charlène Biondi. Elle va nous aider à comprendre ce que la révolution numérique change vraiment, quelles conséquences elle a pour notre société. Et l'on terminera l'émission avec Johan Sfar qui sort 2 livres de BD dont il est le héros.
Europe 1.
Christian Gollier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur général de la très réputée Toulouse School of Economics, co-auteur des 4e et 5e rapports du GIEC. Vous êtes très connu pour vos travaux en économie de l'environnement. Vous venez de publier en poche chez Alpha le climat après la fin du mois sur le coût financier de la transition écologique. Alors ces fuites spectaculaires de gaz dans la Baltique provoquées par les sabotages des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2, qu'est-ce que ça vous inspire à vous ?
Ah ben, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus rapidement passer à la sobriété dans un laps de temps qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait en tête pour la transition énergétique liée au changement climatique. Là, on parlait de dizaines d'années, là, on parle de dizaines de mois.
Mais cette énergie fossile, peu coûteuse, facilement transportable et stockable, sur laquelle l'Occident, depuis 2 siècles, a fondé sa prospérité, nous devons y renoncer alors que les sources d'énergie alternatives dont nous disposons pour le moment sont beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus difficiles à stocker, à transporter, donc moins pratiques et moins efficaces ?
Clairement, étant donné les technologies disponibles, produire de l'énergie décarbonée va coûter de l'argent, va coûter plus d'argent. Oublions quelques instants de la crise énergétique actuelle. La situation va être compliquée dans les années à venir si des ménages, si des entreprises ne sont pas prêtes à faire quelques sacrifices pour décarboner. Et je vous rappelle que réduire de 55% les émissions d'ici 2030 par rapport à 1990, ça va être un challenge absolument phénoménal dans les 8 prochaines années. On a fait la moitié du chemin en 30 ans, il va falloir faire l'autre moitié du chemin en seulement 8 ans. Donc on est dans une situation très complexe.
Mais on a menti à la population en prétendant que la transition énergétique, c'était une chance formidable qui allait nous enrichir et créer des emplois.
Globalement, effectivement, c'est pas le cas. Effectivement, il va y avoir des emplois verts qui vont se créer, mais l'impact sur le pouvoir d'achat va être important et donc il va y avoir des pertes d'emplois dans les secteurs bruns dans lesquels nous allons devoir licencier et trouver des solutions alternatives pour produire des biens et services qui sont aujourd'hui très carbonés et donc très coûteux du point de vue environnemental.
Christian Gollier, la réalité de la transition énergétique, est-ce que ce n'est pas plutôt ce qui nous attend cet hiver, c'est-à-dire des pénuries, des factures qui augmentent considérablement et des bénéfices écologiques qui ne se matérialiseront qu'à long terme ?
Oui, regardons concrètement la situation. L'Allemagne, par exemple, 55% du gaz allemand venait de Russie. Et brusquement, les Allemands doivent se passer de ça. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que plein de secteurs économiques qui dépendaient de ce gaz russe vont devoir soit mettre la clé sous le paillasson, soit délocaliser leur production dans des pays où le gaz reste disponible, soit demander aux consommateurs de payer la facture. Donc ça va être très compliqué dans les mois à venir. Et il n'y a pas qu'en Allemagne. La France et les autres pays européens sont confrontés à une situation similaire. Le président de la République nous demande de réduire de 10% nos consommations d'énergie fossile dans les semaines à venir. Je ne sais pas très bien comment on va le faire.
Tout le monde, au fond, est conscient du dérèglement climatique et de ses causes. On est tous persuadés que le réchauffement se matérialise déjà ici et maintenant. On lui attribue à la fois la sécheresse estivale, l'ouragan Yann qui vient de dévaster les côtes de Floride. Mais notre principale préoccupation, dites-vous dans votre livre, ça reste notre pouvoir d'achat. Avant de nous demander quelle planète nous allons laisser à nos enfants, on veut d'abord les nourrir, nos enfants, leur mettre un toit sur la tête et leur payer un cartable. C'est humain, non ?
Oui, et bien sûr, il y a un consensus sur l'origine humaine du changement climatique, mais il n'y a absolument aucun consensus sur comment réorganiser nos modes de vie, nos modes de production et la société en général pour affronter cette responsabilité envers les générations futures qui devient de jour en jour plus terrible, étant donné ce qu'on voit de l'évolution du climat. climat. La réalité, c'est qu'effectivement, nous sommes confrontés, pour beaucoup d'entre nous, à des problématiques de fin du mois qui rendent difficile la mise en perspective de la problématique de très long terme, qui est celle de protéger l'environnement pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. C'est très compliqué de voir à très long terme lorsque vous avez des problématiques de très court terme, comment vous allez faire pour à la fois consommer et se nourrir et en même temps vous dire mais il faut aussi que mon mode de vie soit décarboné. C'est deux choses qui sont très compliquées dans des pas de temps qui sont complètement différents.
On fait passer, dites-vous, la fin du mois avant la fin du monde. Ça paraît grotesque dit comme ça, mais en même temps, je me dis, c'est normal de faire passer la fin du mois avant la fin du monde. C'est humain.
C'est d'autant plus humain que si vous voulez, quand vous faites un effort de décarbonation, vous en payez les conséquences, vous en payez les coûts. En général, ça coûte cher, ou en termes de budgétaire, mais aussi en termes de confort. Réduire le thermostat cet hiver, pour certaines personnes, c'est pénible en termes de confort. Passer, utiliser des transports en commun plutôt que la voiture particulière, utiliser le vélo, voire même le vélo électrique, par rapport à sa voiture, quand il neige, quand il pleut, c'est quand même un coût, ce sont des coûts supplémentaires et une perte de bien-être. Et évidemment que demander ces efforts alors que l'essentiel des bénéfices, c'est pour l'humanité, mais ça fait appel à soit à l'altruisme des gens, mais reconnaissons que ça va pas fort loin. Certaines personnes sont prêtes à faire des efforts, mais quand même, on voit bien que ça reste compliqué pour l'énorme majorité de la population. Et donc, il faut organiser, c'est le rôle de l'État de responsabiliser les gens, par exemple, à travers des mécanismes de tarification du carbone, comme on a mis en place en France il y a quelques années.
Au fond, on pourrait se dire que ne plus utiliser le gaz russe, notamment celui qui arrivait massivement par Nord Stream 1, Nord Stream 2 n'avait pas encore été mis en place, mais celui qui arrivait par Nord Stream 1, on pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, sauf qu'à la place, on va utiliser du charbon ou du gaz de schiste.
Alors, c'est une bonne nouvelle, effectivement, sauf que, effectivement, comme vous le dites, on va substituer du gaz naturel par du charbon qui émet deux fois plus de CO2 par kilowattheure produit. Hein. Donc on rend les choses encore plus terribles. D'un autre côté, effectivement, le renchérissement général des matières premières fossiles rend plus désirable des investissements dans des énergies renouvelables, dans les pompes à chaleur, etc. Mais ça, ces investissements-là, ils ne vont pas être faits tout de suite. Il va falloir plusieurs années pour, vous voyez ce qui se passe pour les centrales nucléaires, mais c'est vrai aussi pour les champs d'éolien marin, les champs éoliens terrestres, les panneaux photovoltaïques, tout ça met beaucoup de temps pour ces investissements. Or, c'est toujours lui. C'est cet hiver qu'il faut réduire nos émissions de CO2, c'est cet hiver que nous devons réduire nos consommations de gaz naturel, d'électricité et de pétrole. Donc on a une vraie problématique de petits gestes. Hein. Il va falloir que tout ensemble, nous acceptions de faire des petits gestes qui, tout réunis, conduisent à faire 10% globalement de réduction d'énergie. C'est énorme.
On fait une pause, Christian Gollier, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Christian Gollier, le directeur général de la Toulouse School of Economics, qui publie Le climat après la fin du mois en poche chez Alpha. Partout, on a l'impression que la fiscalité écologique suscite des révoltes. On veut que ce soit les autres, au fond, qui fassent les sacrifices, que ce soit les autres qui paient. Alors les Américains, les Chinois, les propriétaires de jets privés, les riches en général, ou les entreprises, ou l'État. Tout le monde, sauf nous.
Cette guerre mondiale contre le changement climatique, elle ne pourra être gagnée que par une mobilisation générale de tous les acteurs économiques, les ménages, les entreprises, les États et au niveau de l'ensemble de la planète. Donc aucune personne ne devrait être préservée. Et évidemment, il faut essayer d'aller chercher parmi les myriades d'actions de décarbonation possibles, contrôlées par une myriade d'agents économiques, les efforts qui sont les moins sacrificiels, les moins coûteux pour atteindre l'objectif recherché. Et ça, la tarification du carbone, la taxation du carbone va effectivement produire une incitation pour réaliser les efforts qui ont un coût par tonne de CO2 évité qui est inférieur à cette taxe. Et donc, effectivement, normalement, ça devrait être un mécanisme qui va permettre d'atteindre l'objectif au moindre sacrifice pour la population. Néanmoins, c'est vrai que cette taxe révèle la réalité des sacrifices à demander aux ménages. Et quand, effectivement, on voit le prix de l'essence à la pompe augmenter de quelques centimes au 1er janvier parce que la taxe carbone on augmente, eh bien ça c'est une démonstration explicite que la lutte contre le changement climatique va nécessiter des sacrifices. Or, on a vendu aux populations depuis une vingtaine d'années, au niveau politique en particulier, l'idée que la transition énergétique sera heureuse, qu'elle permettra de créer des millions d'emplois, comme vous le disiez tout à l'heure, de réduire la facture d'électricité. La réalité est évidemment tout autre et la taxation du carbone démontre ça de façon tellement explicite que l'acceptabilité sociale est problématique. Mais comprenez bien que les alternatives sont encore plus coûteuses. Si vous voulez, je prends un exemple. Quand le gouvernement français soutient le développement de panneaux photovoltaïques sur les toits, elle le fait à travers des subventions, à travers des prix garantis de prix de rachat du kilowattheure produit par ces panneaux photovoltaïques des ménages, à un prix qui est très élevé par rapport au coût de production électrique, par exemple des centrales nucléaires. Et donc ce surcoût, il est finalement quand même payé par les consommateurs d'électricité qui voient dans leur facture d'électricité une taxe de participation à l'effort de développement de ces énergies renouvelables qui représente aujourd'hui 9 milliards d'euros collectés sur les factures d'électricité des ménages. Donc vous voyez que la taxe carbone rend effectivement très explicite les sacrifices demandés aux populations, mais les solutions alternatives sont tout aussi coûteuses et parfois beaucoup plus coûteuses, parce que d'ailleurs, le photovoltaïque en France a été très coûteux à développer depuis 10 ans.
On est tous d'accord, il faut que ce soit les pollueurs qui payent. Mais à l'échelle planétaire, les Français, même les Français des classes populaires, font partie des riches et donc des plus pollueurs.
Et oui, alors la France est plutôt un bon élève, hein, parce que ce qu'on peut faire, c'est comparer les émissions de CO2 par habitant et par an. Aux États-Unis, on est à 19 tonnes de CO2 par an et par habitant. En France, on est autour de 6 tonnes par personne et par année. Par exemple, en République démocratique du Congo, on est à 100 kilos par an et par personne. Donc vous voyez qu'il y a des très fortes différences. Ça veut dire qu'effectivement, il y a, et historiquement en plus, l'Occident a une responsabilité très lourde dans les émissions de CO2 passées. Ceci dit, à une époque où on n'avait pas conscience qu'émettre du CO2 allait engendrer ce problème de changement climatique. Donc il y a effectivement un problème de justice climatique. Faut-il demander aux pays africains ou aux Chinois qui ont finalement historiquement peu contribué à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère à faire beaucoup d'efforts, alors que nous n'en faisons pas beaucoup, ou en particulier les Américains, nous faisons pas mal d'efforts. Ayez bien en tête que l'Union européenne est la seule région du monde qui a réduit ses émissions de CO2 par rapport à 1990. Il n'y a aucune autre région du monde qui a réduit ses émissions de CO2 depuis 1990.
Oui, il faut rappeler que le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, il est là depuis 30 ans, et en fait, c'est nous, à l'époque, qui l'envoyons, ce n'était pas les Chinois.
Voilà, les Chinois, ils sont arrivés, ils sont maintenant les plus grands pollueurs au niveau de l'ensemble du pays depuis quelques années. Ils ont dépassé les États-Unis en termes de nombre de gigatonnes émis par le pays.
Alors vous dites qu'il faut établir un prix unique, universel du carbone. Tous les économistes de l'environnement semblent d'accord pour le fixer en plus à 50 euros la tonne. Chaque Français émettant en moyenne 6 tonnes par an, vous venez de dire, ça fait 300 euros, soit 25 euros par mois. Ça semble pas beaucoup. En quoi ça résoudrait le problème ?
Alors en fait, donc la taxe carbone est une incitation. Hein. C'est bien une méthode qui consiste à aligner les intérêts privés avec l'intérêt général. Quand vous émettez du CO2 et qu'il n'y a pas de tarification du carbone, vous ne tenez pas compte dans vos décisions d'émettre ce CO2 les conséquences dommageables pour autrui de cette pollution. En demandant aux pollueurs de payer pour le dommage qu'ils engendrent, vous faites en sorte que les pollueurs payent pour les victimes qu'ils vont engendrer, et donc ça va intégrer, vous allez forcer les gens à internaliser, à intégrer ces dommages dans leur décision d'émettre ou pas ce CO2. Donc ça, en termes d'incitation, c'est un bon système. On peut allier ce système d'incitation à un système de redistribution, parce que finalement, cette taxe carbone, elle engendre un revenu fiscal qui peut être utilisé pour compenser, en particulier les ménages les plus modestes, pour la perte de pouvoir d'achat qui sera engendrée par cette taxe carbone. Donc on peut à la fois lutter contre le changement climatique et en même temps réduire les inégalités par un mécanisme de taxe carbone. Ce qui n'est pas possible, par exemple, quand vous organisez les incitations, par exemple, à travers la subvention au solaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a pu bénéficier de cette manne de prix garantie sur les kilowattheures solaires? Mais ce sont les gens qui sont propriétaires de leurs toits et qui ont pu effectivement installer ces panneaux photovoltaïques sur leurs toits. Ce n'est pas les locataires du HLM, ce sont les gens qui sont propriétaires de maisons. Donc, vous voyez qu'on a des vrais problèmes d'inégalité. On en parlait il y a quelques instants sur les problèmes internationaux, mais aussi à l'intérieur de la société française, une taxe carbone pose un problème de justice sociale parce que, en moyenne, hein, les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus à leurs dépenses d'énergie. Et donc, quand vous augmentez le prix d'énergie, vous augmentez les inégalités sociales. Donc, néanmoins, la taxe carbone, si vous la redistribuez intelligemment, vous pouvez éliminer, voire renverser l'impact de cette taxe carbone sur les inégalités sociales de notre pays, quoi. Donc, le problème, c'est qu'en 2015, quand on a instauré la taxe carbone en France, on n'a pas fait une redistribution. Et donc, il faut, à mon avis, relancer la taxe carbone dans les années à venir, mais cette fois-ci, en n'utilisant pas le revenu fiscal pour augmenter le budget de l'État, mais pour redistribuer vers les ménages les plus modestes. Ceci étant dit, je voudrais vous dire que les 50 euros la tonne de CO2, ce sera insuffisant, hein, parce que 50 euros la tonne de CO2, c'est estimé pour comme la valeur du dommage engendré par ce CO2. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a un objectif de réduction de 55% d'ici 2030. Et si pour atteindre l'objectif de 55%, il faudra une taxe carbone beaucoup plus élevée. On l'estime aujourd'hui plutôt à 150-200 euros la tonne de CO2.
200 euros la tonne de CO2, ça veut dire 1200 euros par an et par Français.
Oui, que l'on peut redistribuer à nouveau. À nouveau, on peut redistribuer cette taxe vers les ménages les plus modestes. Donc c'est pas une dépense nette. Hein. C'est un signal prix qu'on envoie aux ménages en disant vous voulez mettre du CO2, vous engendrez un dommage considérable pour l'humanité et on vous force à l'intégrer dans vos choix en taxant tous les produits dont la fabrication a nécessité cette émission de CO2.
Pour en savoir plus, je renvoie à votre livre, Christian Gollier, Le climat après la fin du mois. C'est paru en poche chez Alpha.
Merci.
Et on se retrouve juste après une pause avec Charlène Biondi.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Charlène Biondi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez Décoder, une contre-histoire du numérique aux éditions Bouquin. Décoder, vous l'écrivez avec un trait d'union entre dé et coder. Pourquoi ?
Par un jeu de mots sur le code informatique, évidemment. Et aussi parce qu'il s'agit de décoder pas seulement la technologie, donc pas seulement de défaire les codes informatiques, mais de décoder nos idées reçues à son sujet.
Dans cette arrivée demain, on essaye de comprendre ce que la révolution numérique change vraiment, quelles conséquences elle a pour la société. On veut savoir au fond ce qui nous attend. Vous dites que la grande transformation numérique n'est pas technologique comme on le croit. Alors elle est quoi ?
Elle est avant tout culturelle, et je dirais même plus que culturelle, elle est métaphysique. Alors c'est un gros mot, ou un grand mot en tout cas. Mais ce que je suggère, c'est qu'il faut dépasser les discours dans lesquels on assimile la technologie à son industrie, donc à la Silicon Valley, et aux menaces qu'elle ferait peser. Ce que j'essaie de faire avec Décoder, c'est de montrer que la transformation numérique, c'est avant tout une transformation dans le regard qu'on porte sur les choses. C'est-à-dire que la technologie est devenue tellement intime, elle est tellement intégrée à nos vies, à nos pratiques, au quotidien, qu'elle n'est pas seulement un appauvrissement des choses, elle n'est pas seulement une menace. Elle est quelque chose qui vient modeler notre rapport au monde, modeler notre regard et avec lui le sens qu'on donne à l'existence. Et ça, ça a des conséquences essentielles, très profondes pour l'ordre social, pour l'ordre politique et éventuellement pour nos régimes.
Vous voulez dire qu'elle a sa logique propre, la révolution numérique, et qu'au fond, c'est en train de devenir notre logique à nous aussi ?
Je veux dire en tout cas que sa logique ne se réduit pas à une logique économique.
Elle change nos schémas de pensée, elle change donc notre conscience collective.
Il y a beaucoup de discours, on entend très souvent des discours qui assimilent la transformation numérique à une autre révolution industrielle. En fait, moi je pense que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça. Je pense que c'est pas une révolution industrielle, je pense que c'est une révolution scientifique. Et en fait, ce que je montre dans le livre, c'est que les révolutions scientifiques, ça précède à la fois les révolutions industrielles et les révolutions politiques. Et par exemple, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est des grands historiens des sciences qui montrent que au XVIIe siècle, la physique de Newton est à l'origine des découvertes qu'a fait Watt et de la machine à vapeur, qu'en gros, cette révolution scientifique dans le domaine de la physique et des sciences a donné lieu à une révolution industrielle des techniques et qui, elle, a aussi donné lieu par la suite à une révolution politique. Et donc, la Révolution française, en fait, est la fille, pas seulement de la Révolution industrielle, mais de la Révolution scientifique qui la précède. Moi, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que c'est de ça qu'il s'agit avec le numérique. Au point de vue industriel, on le voit, on le sait, on le discute partout. C'est cette fameuse transformation numérique à laquelle ça donne toutes les entreprises aujourd'hui. Au point de vue politique, eh ben, en fait, c'est une grande interrogation qui se pose. Et la question, donc, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la révolution politique qui découlera de cette révolution qui est scientifique et déjà maintenant industrielle ?
Alors, sur le plan politique, pour l'instant, on voit la transformation numérique associée à la surveillance de masse, au renforcement des multinationales au détriment des États, aux fake news, aux réseaux sociaux qui renforcent les individus, eux, contre les États et qui menacent la démocratie, en tout cas la démocratie telle que nous la pratiquons en Occident depuis 2 siècles. C'est un peu court, tout ça, d'après vous ?
Alors, c'est à la fois un peu court et pas court. C'est pas court dans la mesure où tout ça est très juste, tout ça est très vrai et c'est des effets immédiats de ces nouvelles pratiques et notamment et du pouvoir que ces nouvelles technologies confèrent à certains acteurs qui les ont inventées, aux grands innovateurs qui sont essentiellement aujourd'hui situés dans la Silicon Valley et puis de plus en plus en Chine. Et donc c'est important de le dire et c'est évidemment, d'ailleurs je crois que je le dis dès l'introduction du livre, c'est évidemment nécessaire de réguler les excès qu'elles peuvent engendrer. Mais on peut pas s'arrêter là et notamment je pense que c'est une erreur à la fois conceptuelle et une erreur dans la lutte pour la justice sociale de se limiter à ces effets, enfin de limiter notre analyse à ces effets négatifs de la technologie numérique. Parce que elle n'est pas qu'un appauvrissement, je l'ai déjà dit. Et quand on entend par exemple que l'intelligence artificielle nous rendrait moins intelligents, que les réseaux sociaux empêchent le débat public ou que Tinder réduit la rencontre amoureuse à sa dimension purement transactionnelle, tout cela, toutes ces affirmations sont évidemment vraies, mais elles sont tout autant fausses. Parce que je pourrais vous opposer que l'intelligence artificielle, elle permet aussi de faire des progrès absolument inespérés dans la recherche en médecine, dans la recherche fondamentale, qu'elle démultiplie la créativité. On vient de le voir, il y a un nouveau logiciel open source qui fait des merveilles en termes de créativité visuelle aujourd'hui. Je pourrais aussi dire que les réseaux sociaux, c'est un outil formidable d'émancipation, notamment pour les minorités. Enfin, on l'a vu, c'est plus très nouveau tout ça, mais il y a le hashtag Black Lives Matter, il y a MeToo, qui ont incarné des nouvelles formes de lutte parfaitement singulières. Et donc, ce qu'essaie de faire mon livre, c'est de trouver un moyen de tenir compte de cette ambivalence et de comprendre les effets de la transformation numérique sans renier l'incroyable richesse et l'incroyable variété des instrumentalisations et des usages de la technologie, qu'ils soient bons ou mauvais.
On fait une pause, Charlène Biondi, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Charlène Biondi qui publie Décoder, une contre-histoire du numérique aux éditions Bouquin. Le métaverse, l'avènement d'un monde entièrement virtuel que l'on pourra habiter, où l'on pourra vivre, consommer, se divertir. Vous le voyez comment, vous ?
C'est un sujet qui est en ce moment passionnant parce que c'est un peu le dernier né de la transformation numérique. Et donc, c'est un des thèmes sur lequel se cristallise beaucoup de choses. Alors, je ne veux pas aller jusqu'à dire l'hystérie collective, mais un petit peu quand même.
À la fois des réjouissances, il y a des gens qui disent ça va être génial, et puis il y a ceux que ça angoisse.
Voilà, autant de craintes que de réjouissances, autant d'euphorie. En fait, ça illustre parfaitement l'ambivalence dont je parlais, c'est qu'on est à la fois, on est autant euphorique que terrifié par l'avènement possible de ce métaverse, de ces métaverses dont on n'est pas encore sûr de la forme qu'ils prendront. Les seuls métaverses qui sont vraiment intéressants et qui méritent d'être discutés aujourd'hui, c'est les métaverses qu'on appelle décentralisés, c'est-à-dire qui sont issus de la technologie blockchain. Parce que les métaverses sans blockchain, donc centralisés, au final, ils existent depuis très longtemps. Enfin, les Sims, c'était déjà en quelque sorte un métaverse.
Ou le Second Life. Alors, il faut revenir sur la technologie blockchain qui a permis à la fois le Bitcoin et les NFT. Deux mots sur la technologie blockchain, parce que c'est vrai que c'est une révolution à l'intérieur de la révolution.
Et c'est du coup une technologie qui montre, justement parce que c'est la dernière, qui montre très bien à quel point toute la malléabilité du numérique et la façon dont il peut servir à la fois des discours et des fins qui sont en même temps radicalement opposés. Et parlons du Bitcoin, qui est en fait la première application de la blockchain. Les concepteurs du Bitcoin ont promu Bitcoin au départ, comme, enfin, toujours aujourd'hui, comme une technologie de décentralisation, donc profondément émancipatrice pour l'individu, puisqu'elle est censée permettre de remettre en question radicalement le rôle et la légitimité de toutes les institutions centralisées, donc de l'État aux banques centrales, aux banques commerciales et jusqu'aux GAFAM, puisque l'idée, c'est que le Web 3 se passerait des grandes entreprises centralisées du web d'aujourd'hui, donc Facebook et compagnie.
Donc c'est réaliser toutes les promesses, hein, supprimer tous les intermédiaires.
Exactement, exactement. Et dans ce discours, théoriquement, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... La façon dont la technologie a été écrite, dans la blockchain a été créée, cette promesse de décentralisation, elle est évidente et elle est possiblement effective. En même temps, quand on se contente des pratiques et des usages qui prédominent aujourd'hui, dans le monde de la blockchain, on se rend compte que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Que le Bitcoin, finalement, n'est pas si décentralisé que ça, parce qu'il y a un nombre très réduit de nœuds qui minent les blocs du réseau Bitcoin aujourd'hui. Qu'ensuite, les crypto-monnaies en général ont conduit à une immense concentration des richesses auprès d'une quelques poignées d'investisseurs. Donc finalement, c'est juste un transfert de pouvoir et de centralisation sous une autre forme de valeur. Et qu'ensuite, les métavers décentralisés dont on parle, ressemble davantage à une hyper-marchandisation du cyberespace qu'à une libération du cyberespace qui était promise.
C'est vrai que dans le métaverse, on va acheter des vêtements, acheter des terrains, faire du commerce. Au fond, c'est la loi du marché qui va régner.
C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les métaverses, le métaverse français de Sandbox. Absolument tout peut devenir un actif monétisable. Donc, c'est à la fois la création d'un nouveau marché inespéré et presque sans limite. Et en même temps, si on cherchait la libération au sens le plus commun du terme, on peut être déçu, quoi.
Donc si on vous suit bien, Charlène Biondi, la sphère technologique n'est pas une sphère indépendante de la sphère économique, de la sphère sociale ou de la sphère politique. Et l'idée que l'on se fait de l'humanité, du monde, du vrai, de la justice et de la valeur économique est en train de changer sous l'effet de la révolution numérique, tout comme elle a changé avec la révolution de l'imprimerie ou avec la révolution de la télévision, mais en plus rapide.
C'est ça. Sauf qu'encore une fois, il ne faut pas assimiler le numérique à une simple technique et donc à ce qui serait le fruit d'une révolution des pratiques ou des objets industriels. C'est un peu tout le combat, entre guillemets, de mon livre. C'est de dire que c'est encore plus profond que ça. Le numérique, c'est quelque chose de...
Mais c'était profond, pardon de vous interrompre. L'imprimerie, c'était profond. Ça a donné à la fois le protestantisme, le capitalisme, les contrats, etc., etc. Ça a tout changé. Ça n'était pas qu'une révolution technologique. Et la télévision, je suis sûr qu'on pourrait dire la même chose.
Tout à fait. Dans ce sens-là, l'imprimerie, c'est un parallèle qui pourrait être juste.
Vous trouvez que vous avez changé, personnellement, sous l'effet de la révolution numérique?
Évidemment. On ne fait plus rien de la même façon. C'est un peu la question du livre. Qu'est-ce qui change quand tout change? Mais absolument tout a changé. On ne rencontre plus l'autre de la même façon. On ne travaille plus de la même façon. On ne pense plus de la même façon. On ne mémorise plus de la même façon. Absolument tout dans les pratiques du quotidien, même dans les pratiques les plus intimes de la relation amoureuse. Je veux dire, le texto aujourd'hui, comment on tombe amoureux sans texto? Je ne sais pas, moi. Enfin, ça m'est pas... En fait, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est évident que ce numérique et que ces outils sont en train de tisser quelque chose entre l'homme et le monde qui est absolument omniprésent. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change une fois qu'on a dit que tout changeait?
Eh bien, je renvoie à votre livre « Décoder une contre-histoire du numérique ». Ça vient de paraître aux éditions Bouquin. Merci, Charlène Biondi.
Merci beaucoup.
On se retrouve juste après une pause avec Johan Sfar.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, Johan Sfar.
Bonjour.
Auteur de bande dessinée, Le chat du rabbin, Petit vampire, je ne peux pas tous les énumérer, il y en a tellement. Écrivain, réalisateur, guitariste amateur aussi. Vous ne tenez littéralement pas en place. Deux livres de bande dessinée viennent de paraître. On s'en fout quand on est mort, chez Gallimard, et La synagogue, chez Dargaud. Deux livres dont vous êtes le héros. La synagogue vous ramène entre 16 et 21 ans à Nice. Et On s'en fout quand on est mort fait partie de vos carnets. C'est le journal dessiné que vous avez tenu en 2021, à 50 ans donc, pendant que vous travaillez sur la synagogue. Alors comment se transforme-t-on en personnage de BD ?
Ah, c'est compliqué, surtout quand la barbe pousse. Je me demandais s'il fallait que je fasse ma barbe ou pas. Et quand on doit se dessiner à 16 ans et à 51 ans, d'abord c'est déprimant. Et ensuite, ça nécessite une petite construction graphique pour que le lecteur ou la lectrice suive le processus.
Néanmoins, vous avez écrit un certain nombre de livres dans lesquels vous parlez de vous également. Ce sont des livres souvent autobiographiques. Vous n'en avez pas marre de vous ?
Ah bah oui, c'est pour ça que j'essaie de me débarrasser du cadavre. Je donne des morceaux du corps comme Jeffrey Dahmer à mes lecteurs, oui.
J'ai l'impression que vous êtes dans l'idée de tout dessiner, ce qui veut dire toute votre vie.
Non, c'est pas aussi sincère que ça. C'est beaucoup plus construit qu'on croit et puis je mens beaucoup. Non, j'essaie de faire de bonnes histoires. Vraiment, j'ai pas d'autre motivation.
Mais en même temps, comme vous écrivez aussi des livres autobiographiques, et là, on voit bien que vous éprouvez le besoin d'y revenir en dessin.
Bah, sur la synagogue, j'ai vraiment construit le récit presque comme une fiction parce que j'avais une thèse, j'avais un truc à raconter sur la violence, sur la virilité de mon père, sur le militantisme parfois légitime, parfois imbécile de la jeunesse. Et donc j'ai construit comme une fiction à partir de souvenirs personnels.
Dans la synagogue, on comprend mieux votre rapport au judaïsme, hein, que vous avez pourtant déjà longuement exploré dans le Cheikh du Rabbin. Mais on apprend en effet qu'enfant, vous détestiez aller à la synagogue. Vous trouviez ça assourdissant, ça vous faisait peur.
J'avais très peur, je trouvais ça très long. Et je n'ai pas pu m'enfuir, mais on m'a mis à monter la garde devant. Donc ça m'évitait d'être dedans.
Ensuite, donc, entre 16 et 21 ans, vous avez été l'un des vigiles de la synagogue de Nice. Vous faisiez du kung-fu à l'époque. Si bien que cet endroit que vous vouliez fuir à tout prix, vous en êtes devenu le gardien.
Oui, c'est un paradoxe, c'est pareil, j'ai essayé de fuir Nice, de fuir le judaïsme, j'ai fait le chat du rabbin, les juifs sont revenus, enfin, je suis condamné à ça et c'est une condamnation assez douce et assez amusante.
Alors justement, dans la synagogue, vous revenez à une époque où l'on commence à garder les synagogues, c'est pas n'importe quelle époque. Hein.
Non, c'est à la suite de l'attentat de la rue Copernic, le ministère de l'Intérieur a autorisé les juifs de France à faire du gardiennage devant les synagogues et les synagogues ont été gardées par la police également, ce qui nous a séparés des autres croyants, c'est-à-dire moi, j'ai grandi en priant sous protection policière, ce qui crée un rapport singulier à la prière, oui.
Mais qui va jusqu'où ?
Pas qui va jusqu'à une angoisse diffuse, c'est-à-dire qu'on a grandi avec l'idée que les juifs étaient comptables de la rage des extrémistes de tous les bords qui pouvaient passer leur nerf sur eux. Et c'est vrai que ce n'est pas très agréable comme sentiment.
Vous avez perdu votre mère très jeune, Johann Sfar. La synagogue, c'est aussi, vous l'avez dit, un portrait de votre père, hein, qui est votre mentor, que vous avez décrit, déjà raconté dans un livre, mais qui est une personnalité tout à fait singulière.
Oui, l'absence de la mère crée une toute puissance chez l'espèce de mal absolu qui était mon père. Donc, je n'avais pas d'échappatoire imaginaire face à l'espace qu'il investissait. Et il était paradoxal, à la fois il était pour la loi, c'était un avocat qui a fait mettre en prison des néo-nazis, qui était pour le... et à l'inverse, c'est un type qui se bagarrait dès qu'on éraflait sa voiture. Donc il faisait la loi pour tout le monde sauf pour lui-même, et j'ai grandi dans les paradoxes de mon père. Je crois qu'il avait une envie de s'auto-gérer, il n'y est jamais parvenu, il avait des colères qui n'étaient pas possibles à calmer, mais il aimait beaucoup l'institution, je pense que c'était comme beaucoup de personnalités un peu comme ça, contraintes. C'était un très beau mec, très fort, qui avait du succès dans tout ce qu'il faisait, mais il y avait une rage qui était pas possible à calmer.
Est-ce que vous lui ressemblez ?
Non, j'ai très lâchement préféré être celui qui raconte l'histoire. Lui était croyant, il croyait en Dieu, il croyait en la justice, il croyait qu'on servait à quelque chose. Moi, je sais que mes livres servent à rien, je sais que les causes que je défends seront des échecs. Et franchement, c'est très relaxant de se dire, je vais être là pour raconter l'histoire, je ne vais pas être là pour être le héros. Heureusement, je n'ai pas la sexualité de mon père, ça devait être épuisant. Je n'ai pas la cruauté de mon père. Par contre, je l'ai aimé absolument, j'ai adoré ce type-là.
Vous dites, lui croyait en Dieu, ce qui sous-entend que vous n'y croyez pas, et pourtant vous avez gardé la synagogue pendant 5 ans.
C'est ça, c'est exactement ça. J'ai beaucoup de tendresse pour les croyants. Je crois que c'est une activité comme une autre en ville. Et j'aime la spiritualité. Pour autant, je ne sais pas ce que c'est que d'être croyant.
Ça vous manque ?
Non, j'aime bien les rituels. Enfin, dessiner, c'est un autre rituel. J'aime bien l'histoire du sacré, mais je ne parle pas à un monsieur dans les nuages. Je ne sais pas faire ça.
Et pourtant, presque tous vos personnages de fiction sont croyants.
Oui, parce que ça me fascine, parce que pour moi, c'est vraiment une étrangeté. Je suis comme le chat du rabbin n'est pas juif. Il regarde un rabbin avec curiosité, il dit « Tiens, ces gens-là sont étranges mais attachants. »
C'est vous le chat du rabbin ?
Sans doute.
Vous petit ?
Sans doute, oui, sans doute. J'essaye de faire plaisir. Moi, je pensais que manger kasher, c'était une obligation quand on était proche de mon père. C'était, pour moi, le commandement, c'était ça.
C'est parce que vous étiez proche de votre père que vous avez mangé kasher ?
Parce que je ne voulais pas lui faire de peine.
Vous m'avez dit un jour, et ça avait beaucoup frappé, au fond, on est juif à table. C'est à table que l'on devient juif.
Ah oui, moi je milite pour un rapport non intellectuel à ces questions-là, c'est-à-dire l'exotisme doit disparaître. Quand on est à table, il y a un sentiment de simplicité. Bon, bah, les gens sont aussi bêtes les uns que les autres. Dès qu'on va mettre de l'étrangeté, dès qu'on va mettre de l'orientalisme, on crée un mur qui me préoccupe un petit peu.
Dans On s'en fout quand on est mort, vous dites que vous racontez vos souvenirs pour vos enfants. Est-ce que notre passé intéresse nos enfants? C'est quand même une question fondamentale et c'est une question qu'on peut se poser.
Alors, en ce qui concerne les aînés, je suis certain que non, parce que quand ils lisent mes livres, ils lisent Le chat du rabbin, ils peuvent lire Donjon, mais quand je raconte ma vie, ça ne les intéresse pas trop. Je crois que la synagogue, ça les intéresse parce que ça parle de leur grand-père. Alors je crois que moi, ils sont saturés de moi, ils n'ont pas envie d'en lire davantage, je crois.
Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que nos meilleures histoires passionneront nos enfants.
Moi, je m'inquiète, je vois des copains de mon âge qui commencent à parler à leurs élèves, parce qu'on se retrouve tous profs, qui commencent à parler à leurs élèves comme s'ils avaient quelque chose d'important à leur transmettre. Donc quand je vais faire le prof au Beaux-Arts, j'essaie d'éviter de faire ça. Je vois le ridicule chez les autres, je ne le vois pas encore chez moi-même, je ne suis pas assez lucide.
Y compris dans les anecdotes, pour essayer de replacer dans un contexte, dans une époque, tout ça paraît fastidieux aux plus jeunes oreilles.
Alors, ça, je ne suis pas sûr. Les années 80 à Nice, ce sud de la France qui ressemble à une Italie imaginaire, ça, je ne suis pas sûr que ce soit ennuyeux. Quand je vois que Cobra Kai a autant de succès sur Netflix, je me dis une histoire de karaté avec des petits niçois au bord de l'eau, il n'y a pas moyen qu'on s'ennuie.
Oui, sous cet aspect-là, certainement. Il y a un autre aspect de Nice à cette époque que vous avez bien connu parce que votre père y est mêlé, c'est Jacques Médecin. Jacques Médecin, le tout-puissant maire de Nice, qui est quelqu'un de tout à fait folklorique aujourd'hui. Enfin, ça n'existerait plus, quelqu'un comme Jacques Médecin.
Ah, c'est pas compris quand j'en parle. C'est que mon père a été un adversaire historique de Jacques Médecin. Ils se sont alliés brièvement, puis il y a eu une brouille. Mais malgré tout, il gardait pour lui une estime énorme, ce qui est le cas de tous les Niçois. Et j'ai osé dire ça à la radio l'autre jour, j'ai été écrasé sur Twitter de « Johan défend le mafieux Jacques Médecin ». Mais non, on est lucide sur le personnage. Pour autant, il a incarné la ville de Nice, il a incarné l'irrédentisme niçois avec ce que ça a de révoltant et ce que ça a d'agréable. Et on ne peut pas parler de Nice sans parler de Jacques Médecin.
Et c'était quelqu'un d'avant Internet, c'est-à-dire qu'il se faisait passer pour quelqu'un d'autre quand il était aux États-Unis, par exemple. Il se faisait passer pour un prince, un aristocrate, ce qui aujourd'hui ne tiendrait plus deux secondes.
Oui, oui, même à Nice, il se faisait passer pour toutes sortes de choses. Par exemple, il avait un carnet de contraventions sur lui et il dressait des contraventions quand une voiture était mal garée. Alors les gens gardaient la contravention, ils l'affichaient chez eux.
Il y a une anecdote que vous racontez dans votre carnet, hein, On s'en fout quand on est mort. Donc en dessin, vous étiez enfant à Nice et vous avez vu dans une vitrine une petite fille de votre âge, une petite gitane. Elle était debout dans la vitrine d'un magasin de jouets avec un panneau autour du cou où il était écrit « Je suis une voleuse ».
Mais oui. Oui, parce que j'essaye de parler de racisme de temps en temps. Je raconte aujourd'hui, on s'émeut de tout. Et à Nice, je me souviens de ça, quand j'étais petit, il y a une commerçante qui avait attrapé une gamine et elle lui a mis une pancarte voleuse. Et heureusement, les Niçois se sont énervés et les gens se sont mis à se battre dans le magasin pour libérer cet enfant. Et j'ai vu cette petite fille s'enfuir. Je ne sais même pas si elle avait saisi toute l'aventure. Et d'un côté, je pourrais être joyeux que les Niçois soient émus de la situation, mais on n'imagine pas aujourd'hui une petite fille dans une vitrine avec marqué voleuse.
Vous pensez qu'elle n'avait pas saisi la situation? Elle avait votre âge. Je pense qu'elle a tout compris.
Oui, j'ai le sentiment que c'est une époque où les enfants avaient le cuir un petit peu plus épais qu'aujourd'hui, dans la mesure où ils subissaient des violences et des agressions continuelles. Donc il y avait un jeu de chat et de la souris qui est moins qui aujourd'hui serait moins perceptible. Mais oui, c'était terrible, c'est abominable. J'essaie de raconter le petit gosse de riche que j'étais qui voit une gamine de son âge dans une vitrine et j'espère que ça... Mais pour raconter ça correctement, il faut le raconter froidement. Si je me mets à le raconter en faisant de l'émotion, je risque de ne pas vous émouvoir.
Et il faut le raconter en dessin.
J'espère. J'espère, faut que les bons hommes aient l'air de sortir de petits vampires ou de sardines de l'espace.
Merci Johan Sfar.
Merci.
La synagogue, c'est chez Dargaud et On s'en fout quand on est mort, c'est chez Gallimard.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk.